VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du vendredi 9 novembre 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
L'opposition congolaise tente de se désigner à Genève un candidat unique pour la présidentielle du 23 décembre prochain.
En RDC même, 17 membres présumés d'une milice pro-Kamuina Sapu ont été tués au Kasaï.
Au Burundi, les autorités ont refusé d'agréer la nouvelle formation politique de l'opposant Agathon Rwasa.
En Guinée, l'opposition a annoncé hier un deuil de 5 jours après la mort la veille de 2 manifestants.
Ici aux États-Unis, tous les drapeaux ont été mis en berne en mémoire des victimes de la dernière fusillade en date.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
L'opposition congolaise réunie à Genève, en Suisse, pour se désigner un candidat unique à la présidentielle du 23 décembre. Sept grands partis et regroupements politiques et l'opposition ont jusqu'à samedi 10 novembre pour sélectionner le candidat qui va affronter celui de la coalition au pouvoir, Emmanuel Ramazani Shadary. Des détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire en RDC.
Pendant 2 jours, les principaux leaders de l'opposition vont discuter de la désignation d'un candidat commun qui va porter leur projet à la présidentielle du 23 décembre 2018. Les dernières délégations ont quitté Kinshasa jeudi pour Genève. Sur place devraient les rejoindre Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Après plusieurs rencontres préliminaires en RDC, en Belgique comme en Afrique du Sud, ces opposants ont donc 48 heures pour réaliser la promesse qu'ils ont faite à la population de se désigner un seul candidat qui compétitionne avec l'appui de tous contre celui de la coalition au pouvoir. Seuls 4 d'entre eux sont en course pour cela. Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Martin Fayulu et Freddy Matungulu. Mais les positions de Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et Adolphe Mouzitu compteront énormément tant l'usage ou non de la machine à voter lors du scrutin du 23 décembre les a divisés ces dernières semaines. Ses opposants ne disposent plus d'assez de temps car la campagne électorale démarre le 22 novembre courant. Kinshasa. Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
RDC toujours, 17 membres d'un groupe armé ont été tués au Kasaï dans le centre du pays, dans une opération militaire contre des milices qui se réclament du chef rebelle Kamuina Sapu, tué en 2016. Précision de Jacques Aristide.
D'après un chef traditionnel, près de 60 miliciens étaient réunis dans la forêt autour de leur chef à Kawaii des Wayeux. L'armée, poursuit Chibangu Mwela, les a surpris et a ouvert le feu. Ce jeudi, nous avons ramassé 17 corps dans la forêt de Minshanga, dit-il encore. Minshanga est située dans le territoire de Luebo, dans la province du Kasaï central. Le chef milicien Kawaii des Wayeux et son épouse n'ont pas été retrouvés, mais leur enfant de 3 ans ainsi que d'autres miliciens ont été capturés. Le chef traditionnel a salué cette opération de l'armée qui, selon lui, libère la population des tracasseries des miliciens qui, dit-il, ont décapité plusieurs personnes dans la région. L'opération militaire a eu lieu mercredi, d'après le capitaine Désiré Bidoya, responsable local de la police qui a également confirmé le bilan. Les personnes capturées sont gardées à l'état-major de l'armée en attendant leur transfert à Kananga. L'armée a récupéré des armes de guerre et des fusils de chasse. La région du Kasaï a basculé dans la violence en 2016 après la mort du chef traditionnel Kamuina Sapu, tué dans un assaut des forces de sécurité après s'être ouvertement opposé au pouvoir de Kinshasa.
Au Burundi, le ministre de l'Intérieur a refusé d'agréer la nouvelle formation politique du très influent opposant Agathon Rwasa. Le point avec Arzuma Compaoré.
Nous avons reçu votre demande d'agrément d'un parti politique dénommé FNL Amizero Yabarundi. Nous avons constaté que les sigles, emblèmes et devises sont semblables à ceux d'un parti politique déjà agréé, a écrit Pascal Baradiguier, ministre de l'Intérieur. Il s'agit d'une allusion très claire au parti issu de l'ex-rébellion des FNL, dont le chef historique Agathon Rwasa a été évincé de la tête en 2011. Monsieur Rwasa a créé son nouveau parti le 13 septembre à Bujumbura, mais doit obtenir l'agrément des autorités pour participer aux élections générales. La nouvelle nouvelle constitution ne permet plus à une coalition d'indépendants de se présenter, comme c'était le cas en 2015. La coalition Amizero-Yabarundi n'a pas le droit d'organiser des réunions ou des meetings et ses membres sont systématiquement arrêtés. Le Burundi est en crise depuis que le président Pierre Nkurunziza a annoncé sa candidature à un troisième mandat controversé en avril 2015. Il a été réélu en juillet de la même année, mais il a assuré en juin qu'il n'allait pas se représenter à la présidentielle de 2020.
Trois importants chefs djihadistes au Mali, l'ex-chef rebelle Touareg malien Iyad Aggali, l'Algérien Djamel Okacha et le prédicateur radical Paul Amadou Koufa sont apparus dans une vidéo diffusée hier soir pour appeler à poursuivre le djihad. Leur message est adressé en particulier aux peuples d'Afrique de l'Ouest. Portant un turban noir sur la tête, Amadou Koufa, dont le groupe est apparu il y a 3 ans dans le centre du Mali, a été le seul à s'exprimer en langue peul. Il s'en est pris en particulier à la France.
En Guinée, l'opposition a annoncé hier un deuil de 5 jours pour marquer sa solidarité avec les victimes de violences policières et militaires après la mort la veille de 2 manifestants. Des détails avec Nanit Talani.
Nous avons enregistré de nombreux assassinats ciblés, mais avec ce double meurtre, on a franchi la barre de 100 victimes de M. Alpha Condé, a déclaré le chef de file de l'opposition, Sélou Dalein Diallo. Il a mis en cause des bérets rouges qui étaient présents aux côtés de la police. Selon lui, des membres de cette unité d'élite militaire sont arrivés sur une moto et ont arrosé de balles un groupe de jeunes qui étaient assis. On va demander 5 jours de deuil jusqu'à lundi. Nous allons demander à tous les Guinéens épris de paix de se joindre à nous pour marquer leur solidarité avec les familles, a expliqué M. Diallo. Il a promis que les manifestations reprendront la semaine prochaine avec la marche des femmes mardi, puis une nouvelle journée ville morte mercredi, suivie le lendemain d'une marche de protestation contre l'impunité. Depuis le début du mois d'octobre, l'opposition guinéenne multiplie les journées ville morte et les manifestations contre la violation d'un accord conclu en août sur l'installation des élus locaux après le scrutin contesté du 4 février.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a ordonné que tous les drapeaux du pays soient mis en berne en mémoire des victimes, après qu'un ancien soldat a ouvert le feu mercredi soir dans un bar bondé près de Los Angeles en Californie. Ce dernier a tué 12 personnes avant de se suicider, selon le shérif local. Le tireur de 28 ans, Ian Long, a commis ce carnage lors d'une soirée rassemblant plus d'une centaine de personnes, dont de nombreux étudiants, dans la ville de Thousand Oaks, au nord de Malibu. Il était connu des services de police et de ses voisins pour des troubles psychiques. Et rien ne laissait envisager un quelconque lien terroriste.
L'attorney général par intérim Matthew Whitaker, 49 ans, aura pour mission de superviser l'enquête sur les ingérences de la Russie dans l'élection présidentielle de 2016, menée par le procureur spécial Robert Mueller. Cette reprise en main du dossier signifie-t-elle un tournant pour le procureur Mueller? Les réactions fusent de partout. Irénée Hermanoumbo pour plus de précisions.
Matthew Whitaker n'a jamais caché son opposition à l'enquête sur une éventuelle ingérence russe dans les élections de 2016. En août 2017, il avait reproché au procureur spécial de s'intéresser aux finances de Donald Trump et avait exhorté Rod Rosenstein à limiter la portée de l'enquête. En raison de ses commentaires, il devrait se récuser, a commenté le sénateur démocrate Chuck Schumer, indiquant que toute ingérence dans l'enquête de Mueller serait considérée comme une crise constitutionnelle. Si le président a toute autorité pour remplacer son ministre de la Justice, cela ne doit pas être le premier pas dans une tentative de mettre un terme à l'enquête Mueller, a pour sa part déclaré le sénateur démocrate Mark Warner. Côté républicain, certaines voix se sont aussi élevées pour défendre le travail du procureur spécial. Il est impératif qu'il aille à son terme sans être gêné, a estimé Mitt Romney au lendemain de son élection comme sénateur de l'Utah. De son côté, Gerald Nadler, pressenti pour prendre la tête de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, a dénoncé une ingérence du président Trump et prévenu que les démocrates pourraient lancer une enquête parlementaire dès janvier à ce sujet.
Et ajoutons que des manifestants se sont mobilisés dans des villes de l'État de New York à la Californie pour mettre en garde la Maison-Blanche contre un éventuel limogeage du procureur spécial Robert Mueller.
Plusieurs dizaines d'ONG se sont unies vendredi pour dénoncer un plan de rapatriement en Birmanie, annoncé pour la semaine prochaine, rapatriement de musulmans Rohingyas ayant fui ce que l'ONU dénonce comme un génocide, les disant terrifiés. Les 42 ONG signataires de la lettre ouverte publiée ce vendredi s'inquiètent, jugeant les conditions de sécurité non réunies et un retour dangereux dans ce pays marqué par un virulent nationalisme bouddhiste.
Et c'est la fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Au Sénégal, la récolte céréalière s'est chiffrée à 2,73 millions de tonnes en 2018, selon le ministère de l'Agriculture. Une hausse de 9% par rapport à l'année dernière et une augmentation de 47% par rapport à la moyenne quinquennale. La production de riz a atteint 1,13 million de tonnes, soit 12% de plus que 2017. Le volume de mil a été estimé à 827 600 tonnes et celui du sorgho a avoisiné 291 170 tonnes. Ces trois céréales sont les plus consommées par le Sénégal, qui vise l'autosuffisance en riz padi avec une production de 1,6 million de tonnes en 2019. Le Gabon vient de lancer son nouveau cycle d'octroi de licences pétrolières avec 34 blocs de pétrole et de gaz. Selon le ministre gabonais du pétrole, Pascal Ambouroué, le gouvernement prévoit de réduire l'impôt des sociétés énergétiques de 35% et augmenter les recettes publiques. La nouvelle législation fixerait un taux minimum de redevance de 7% pour le pétrole offshore conventionnel et de 4% pour le gaz. En eau profonde et ultra profonde, les taux de redevance seraient de 5% pour le pétrole et de 2% pour le gaz. Terminons avec l'Algérie qui octroie environ 265 milliards de dinars au secteur agricole dans le projet de loi de finances 2019. Plus de 21 millions de dinars profiteront notamment aux projets d'agriculture et à ceux relatifs aux parcs nationaux et réserves de chasse ainsi qu'aux forêts.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
L'Espérance sportive de Tunis reçoit Al Ahly ce soir pour la finale retour en Ligue africaine de champions.
C'est une finale retour sous haute tension après un match aller houleux remporté par Al Ahly 3-1, mais dominé par les polémiques. La bonne nouvelle pour l'Espérance, c'est que le club tunisien pourra compter sur le soutien de l'ensemble de ses 60 000 supporters à Rades. La CAF a en effet répondu favorablement à la requête des Sang et Or, qui réclamait la levée de la suspension frappant l'un de leurs virages pour cette rencontre. Côté national, Walid Azaro sera absent sur décision de la CAF qui l'a sanctionné de 2 matchs de suspension. Les images du match aller ont montré qu'il avait fait exprès de déchirer son maillot avant que l'arbitre lui accorde le deuxième pénalty. Al Ahly cherche à ajouter une 9e Ligue des Champions à sa vitrine des trophées, d'autant que le dernier remonte déjà à 2013. L'Espérance, elle, est en quête d'une 3e Ligue des Champions après l'avoir remportée en 1994 et 2011.
Le Congo avec Mabulu contre la RDC.
Oui, le Congo accueille la RD Congo dans le derby comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Le sélectionneur des Diables Rouges, Valdo, a convoqué 16 expatriés. On note le grand retour de l'attaquant de Nancy, Christopher Mabulu, 28 ans, déjà convoqué à plusieurs reprises il y a quelques années, mais qui a toujours temporisé. Joueur de 4e division en Italie, Alexandre Obambo fait aussi son apparition dans un groupe qui comprend les cadres Bifuma, Onyangé et Baudry. Tout récemment revenu de blessure, Delvin Ndinga de Sivasspor reste en revanche absent, tout comme Romaric Etou et Delarge Nzon qui sortent de la liste.
Deuxième coup dur pour le Nigeria.
Déjà privé de leur gardien titulaire Francis Ozuo pour le choc de la 5e journée des éliminatoires, les Super Eagles devront également se passer de leur attaquant Odio Ighalo, actuel meilleur buteur de ses qualifications et auteur de 5 buts en 2 matchs le mois dernier contre la Libye. Le joueur de Changchun s'est blessé au jishu au jambier dans le championnat chinois et il a dû déclarer forfait. Pour le remplacer, le sélectionneur Gernot Rohr a appelé Henry Onyekuru de Galatasaray en renfort. Le Nigeria affronte l'Afrique du Sud le 17 novembre prochain. NBA, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière.
Oklahoma City 98 et Houston 80 et Boston a battu Phoenix 116 à 109.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'opposant sénégalais et candidat possible à la présidentielle de 2019, Ousmane Sonko, est actuellement en visite aux États-Unis. Pour discuter de son programme, John Lydon l'a joint hier à New York.
Beaucoup de réalisations, particulièrement au monde rural. Et je pense que c'est ce genre de coopération que nous souhaiterions avoir, en tout cas renforcer et multiplier, parce que ça permet de faire de grands bonds en avant.
Vous êtes également engagé dans la lutte contre la corruption dans votre pays. Et pour changer les choses, vous dites que vous souhaitez être candidat à la prochaine présidentielle de février prochain. Comment comptez-vous atteindre vos objectifs?
Bien, vous savez, pour être candidat, c'est réglementé par la Constitution et le Code électoral. Et depuis quelque temps, il y a des conditionnalités supplémentaires, notamment le fameux parrainage dont vous avez certainement entendu parler. Et nous sommes en plein dans ce processus pour réunir le nombre de signatures qui varie entre 52 000 et 67 000 signatures à déposer au niveau du Conseil constitutionnel. Après, le reste, c'est les formalités d'usage, la caution, et nous sommes convaincus de pouvoir réunir toutes les conditions, si elles ne sont déjà totalement réunies, pour pouvoir présenter cette candidature-là au niveau du Conseil constitutionnel. Pour le reste, nous jouissons de tout ce qui est requis par la Constitution, notamment nos droits civiques. Et nous sommes citoyens sénégalais, députés à l'Assemblée nationale. Nous avions déjà participé aux élections législatives. Donc, considérons qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure de réunir toutes les conditions pour pouvoir déposer une candidature. Périssant d'entendre parler de jeunesse à 43 ans, je crois que je me trouve présentement en Amérique où un président a pu diriger à 43 ans. Et je veux nommer le président Kennedy. Et nous avons dans beaucoup de démocraties, notamment la France, où un président beaucoup plus jeune que moi est en train de diriger aux destinées de ce pays. Nous considérons que c'est des arguments assez farfelus, d'autant que sur le plan de l'expérience, nous avons fait tout ce qu'il fallait. Nous avons été haut fonctionnaire, inspecteur principal des impôts et domaines. Nous avons servi aux plus hautes sphères de l'État pendant une quinzaine d'années. Nous avons démontré à suffisance par notre présence à l'Assemblée nationale depuis un an qu'on est député que nous avions quelque chose à proposer aux Sénégalais. Nous avons continué en sortant un ouvrage Vision qui a été publié récemment et présenté aux Sénégalais dans un cadre contradictoire.
Merci.
Nous pensons que le débat ne peut pas se poser en ces termes. Par rapport aux réalisations du président Macky Sall, je crois que c'est les Sénégalais qui devront apprécier.
C'était l'opposant sénégalais et candidat possible à la présidentielle de 2019, Ousmane Sonko.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
En Mauritanie, le blogueur Mohamed Cher Oud Mahaitir est toujours détenu dans un lieu secret un an après l'annulation de sa condamnation par un tribunal de Ouagadougou. Sa santé physique et mentale se dégrade. Des organisations de défense des droits de l'homme ont décidé de faire campagne pour obliger le gouvernement de Nouakchott à le libérer. Nani Talani a joint Kine Fatim Diop, chargé des campagnes pour l'Afrique de l'Ouest à Amnesty International.
Le ministre de la Justice, lors d'une interview, avait reconnu qu'il était en détention quelque part en Mauritanie parce qu'il est détenu au secret. Et en mai, finalement, devant le comité de la discrimination raciale, le commissaire aux droits humains a dit que Mohamed Mohaitir est en détention pour des raisons de sécurité. Pour nous, c'est vraiment inquiétant. On ne garde pas une personne qui a été libérée par la Cour et qui a des problèmes de santé en détention pour sa sécurité. Je pense que si les autorités mauritaniennes veulent garantir la sécurité d'un citoyen, ils ont tout le mécanisme pour le faire. Il doit vraiment libérer Mohaitir parce que le garder, c'est vraiment un mépris pour une décision de justice. Je pense qu'il y a des moyens de le mettre en sécurité s'il le faut hors du pays. C'est la responsabilité de l'État. Il n'a absolument rien fait. Hein. Il a juste critiqué dans un article les personnes qui utilisent la religion. Il s'est repenti à plusieurs reprises. Donc je pense que le garder en prison, un état de santé qui est assez critique, risque d'avoir plus fortes conséquences que de le sortir.
Ses avocats ne sont pas autorisés à le voir. Est-ce qu'on a des preuves qu'il est toujours en vie?
Sa Ma famille a eu quelques visites au cours de l'année, donc ils peuvent nous confirmer qu'il est toujours vivant. Ses avocats ont dit à plusieurs reprises depuis un an, ils demandent un droit de visite. Ils n'ont jamais obtenu de réponse des autorités. Nous savons qu'il est vivant et nous savons qu'il est dans un état de santé assez préoccupant. Et vraiment, aujourd'hui, toutes les organisations, nous sommes 32 aujourd'hui, à demander à ce qu'il soit libéré, mais que surtout l'État garantisse sa sécurité lors de sa sortie.
Il ne peut pas voir un médecin.
Il n'a pas d'accès au médecin. Il a besoin de faire des analyses plus approfondies pour pouvoir avoir un traitement. Il n'a pas obtenu ceci depuis un an. Il est en détention seul, pas dans une prison. C'est vraiment inquiétant et pour nous, tenir un bloc, c'est vraiment pas un crime. Il ne mérite absolument pas cette détention.
Quels sont les moyens de pression que vous avez à votre niveau pour exiger sa libération?
Alors, pendant longtemps, beaucoup d'organisations ont joué sur la diplomatie en parlant du cas de Mouhaïti en bilatéral avec les autorités. Mais je pense que, vu la gravité de la situation, nous avons décidé de faire une campagne sur plusieurs mois pour demander partout dans le monde la libération de Mouhaïti. Donc, demain, il y aura une manifestation devant l'ambassade de la Mauritanie aux États-Unis, à Washington. Nous espérons multiplier ce type d'action partout dans le monde pour que Mouhaïti, qui est vraiment un cas de la répression des défenseurs des droits humains qui militent contre la discrimination en Mauritanie, que vraiment ce cas soit entendu par tout le monde et que les autorités se rendent compte qu'il ne sert à rien de maintenir ce blogueur en détention.
Est-ce que la situation de Mohamed Cheikh Ould est unique en Mauritanie ou il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que lui?
Malheureusement, la situation de Mahathir n'est pas une exception en Mauritanie. L'International a publié un rapport en mars de cette année. Dans ce rapport, nous avons pu documenter 168 cas d'activistes qui militent contre l'esclavage et la discrimination en Mauritanie qui ont été arrêtés et parfois torturés. Beaucoup d'organisations travaillent sur ces questions sensibles, n'arrivent pas à s'enregistrer et donc opérer légalement. Et à n'importe quel moment, ils peuvent être arrêtés pour avoir participé ou être membre d'une organisation non reconnue. Donc il y a cette épée Damoclès qui est sur la tête de beaucoup de militants mauritaniens. Et surtout, il y a une campagne d'intimidation et de dénigrement orchestrée par les autorités, mais parfois par des groupes religieux, pour critiquer les défenseurs des droits humains, alors qu'ils font un travail vraiment incroyable en Mauritanie pour faire mieux connaître les droits humains, mais pour défendre l'État des victimes d'esclavage et de dominants.
Jointe hier par Nanit Talani, c'était Kine Fatim Diop, chargée des campagnes pour l'Afrique de l'Ouest à Amnesty International.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Nigeria, la Commission électorale nationale indépendante publie les listes provisoires des électeurs en prévision des élections de février 2019, comme le prévoit la loi électorale. Reportage sur place de notre correspondant Gilbert Tamba.
Être inscrit sur la liste électorale est une condition incontournable pour pouvoir voter aux prochaines élections générales au Nigeria. Il est 10h au centre d'enrôlement des électeurs situé dans la zone 3 de la capitale fédérale, Abuja. Youssouf Dantala Mohamed est parmi les premiers à venir chercher son nom sur la liste. Il finit par le trouver et il vient de recevoir sa carte électorale.
J'ai vu mon nom et j'ai pris tous les détails. J'ai demandé à la personne au portail pour me montrer où je pouvais récupérer ma carte électorale. Il m'a dirigé vers un bureau et j'ai attendu l'arrivée du staff. Je me suis présenté avec les détails et ils m'ont remis ma carte. Je pourrai désormais exercer mon droit civique, celui d'aller voter en tant que Nigérian.
Il n'y avait pas d'engouement autour de cette opération puisque beaucoup d'électeurs ne sont pas encore informés. John Abou est aussi venu chercher son nom, un nom qu'il ne trouve pas sur la liste.
Je ne suis pas satisfait d'une telle situation. S'ils doivent faire un travail, ils doivent le faire avec rigueur pour éviter le stress aux gens parce que nous sommes inscrits ici, donc je ne vois pas la raison pour laquelle ils vont envoyer ça ailleurs. C'est une grande préoccupation pour moi et je ne suis pas content.
Du côté de la CENI, on annonce que des équipes seront déployées dans tout le pays et cette opération qui doit durer pendant une semaine aboutira à la publication des listes définitives des électeurs. L'affichage des listes d'électeurs permettra aux citoyens de faire des réclamations et des objections concernant des mineurs, des décès, des électeurs étrangers, entre autres, susceptibles de figurer sur le registre. registre des électeurs. Aliou Beloué, le directeur adjoint de la communication de la Commission nationale électorale indépendante, il explique ce qui est prévu pour ceux qui n'ont pas leur nom sur la liste électorale.
If such individuals happen to be part of those,
si ces gens font partie de ceux dont les noms ont été oubliés par erreur en consolidant la liste, une procédure est mise en place pour eux pour leur permettre de signaler l'absence de leur nom sur la liste. Un formulaire leur sera remis pour le remplir et à un moment opportun, la commission va revoir toutes les procédures.
Selon la commission électorale, plus de 80 millions de Nigériens en âge de voter sont inscrits sur les listes électorales à travers le pays. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
À Bukavu, en République démocratique du Congo, les participants au forum interprovincial devant produire un projet de document sur la politique foncière nationale en RDC viennent d'opter pour la révision de la loi foncière de juillet 1973 en vue d'améliorer la réglementation foncière. Ces assises ont été organisées par le ministère congolais des Affaires foncières en partenariat avec l'ONU Habitat, le Fonds national RED+, le DFID et la coopération suisse, nous dit notre correspondant sur place Ernest Mouhero.
Pendant 4 jours, plus de 250 délégués venus de 26 provinces de la RDC ont réfléchi sur les forces et faiblesses de la loi foncière de 1973. C'était avant de relever les problèmes fonciers majeurs qui découlent de sa mise en application sur l'ensemble des territoires congolais. Guy Mouléa vient de Lubumbashi, où il est conseiller du ministre des Mines et Affaires foncières dans la province du Haut-Katanga.
Il fallait un diagnostic de l'administration foncière. Au Katanga, par exemple, nous avons un grand problème avec la superposition des titres miniers sur les titres fonciers.
D'autres problèmes sont aussi vécus à Kinshasa, rapporte Maître André-Marie Kito de la Société civile de Kinshasa.
Il y a des services fonciers qui sont à Kinshasa et qui attribuent des portions de terre à 2, 3 ou 4 personnes à la fois. Et vous allez retrouver 4 personnes, chacune avec un contrat.
Venancy Bissimois du Sud Kivu déplore l'accaparement des terres par le plus nanti.
Nous sommes là avec une élite qui a pris la terre et qui ne l'exploite pas à côté des paysans qui n'ont même pas un hectare pour vivre. Les terres de milieu rural, ce sont plus les terres qui posent problème parce qu'ils sont sous le régime coutumier. En même temps, on les soumet à un régime des droits.
Pour le ministre national des Affaires foncières, Lumea Dumalegi, ce forum a permis de lever des options fondamentales en vue d'améliorer la gouvernance foncière.
Nous ne voulons pas qu'un opérateur économique arrive, il chasse la population locale qui ne se retrouve pas et ça amène les conflits. Nous avons aussi planché sur comment le foncier va jouer un rôle capital dans le renflouement des caisses de l'État.
Le délégué de la CPGL, la communauté économique des pays des Grands Lacs, le professeur Moïse Tufende, salue l'option prise en ce qui concerne la révision de la politique des règlements des litiges fonciers.
Parmi les mesures prises, il sera créé une inspection foncière. Avant d'amener un litige devant les cours et tribunaux, les parties prenantes en litige seront obligées de passer d'abord par l'inspection foncière avant de soumettre leur litige devant les cours et tribunaux. Il y a aussi des innovations, par exemple le renforcement du genre dans l'octroi des titres fonciers.
Le chef coutumier et peuples autochtones se disent satisfaits. Sa Majesté Mfumo Difima est secrétaire général des autorités traditionnelles du Congo.
Ce forum vient de nous donner une occasion, une fois pour toutes, de certifier et cartographier nos terres, qu'il n'y ait plus de sang dans ce pays pour des problèmes de terre.
Reste à savoir si la volonté politique va suivre. Ernest Mouhero, Bukavu pour VOA Afrique.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de la ménopause.
À partir d'environ 45 ans, la plupart des femmes cessent d'avoir des règles et de procréer. Une métamorphose qui peut s'accompagner des malaises et des troubles de l'humeur.
Pour en parler, nous recevrons le docteur Richard Mukendi, gynécologue en RDC. Il nous dira comment faire quand survient cette étape de la vie.
Nous écouterons aussi le témoignage de Monique Mourandia, une femme ayant connu sa ménopause à 38 ans. Elle nous expliquera comment elle a affronté cette épreuve.
Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanche et mercredi à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console. Daryl Smith, merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.